Vous êtes bien sur la radio Fréquence Paris Pluriel, 106.3 Bande FM, pour une nouvelle émission des Périphériques vous parle, de 17h à 18h. Aujourd'hui, nous vous proposons un entretien avec Roger Langlais à l'occasion de la sortie du livre d'André Aschieri, « Mon combat contre les empoisonneurs », écrit en collaboration avec Roger Langlais aux éditions La Découverte. Comment les industriels s'organisent pour continuer à vendre leurs produits toxiques et comment les citoyens se mobilisent pour leur répondre ? Lobbying, industrialo-politique, remise en question du principe de précaution, nanotechnologie et écotoxicologie seront les grands thèmes abordés dans cet entretien avec Roger Langlais, philosophe et journaliste d'investigation, et qui est l'auteur de nombreux ouvrages dont Profession corrupteur et les lobbying de la santé. Tout de suite, entretien avec Roger Langlais.
Quels sont les dispositifs de contrôle ou d'avalisation légaux qui sont mis en place par rapport à la production industrielle? Dispositifs de contrôle gouvernemental, des avalisations données par des laboratoires scientifiques par exemple. Quels sont les dispositifs qui sont mis en place notamment dans le cadre en France et puis peut-être à travers l'exemple d'autres pays européens?
Alors en France, depuis le... La loi de 98, en fait, on a, pour se résumer, quelques agences de sécurité sanitaire. Donc il y a l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, c'est l'agence du médicament, si souvent critiquée pour le manque d'indépendance de ses experts, qui, dans leur immense majorité, travaillent aussi pour les laboratoires pharmaceutiques, et donc n'ont pas forcément envie d'émettre des avis réservés sur la qualité de ces médicaments. Hein. Donc là, il y a tout un tas de conflits d'intérêts. Donc ça, c'est l'agence du médicament. Il y a l'AFSA aussi, l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, qui, elle, donc, est chargée d'évaluer la toxicité éventuelle donc des produits qui entrent dans la composition des aliments industrialisés, sont au contact de ces aliments. Donc alors, évidemment... tous les produits phytosanitaires, les pesticides, disons, ainsi que les produits qui entrent en contact par emballage. Et on aura l'occasion de revenir, je pense, sur les nanomatériaux en particulier. Donc ça, c'est l'Agence de sécurité sanitaire des aliments. Alors, jusqu'au mois de juillet 2010, existait une troisième agence, l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail. Alors ça, c'était sur l'ensemble des produits toxiques auxquels on peut être exposé, mais donc pas à travers l'alimentation, mais à travers les produits qui sont dans notre environnement, autour de nous. Ça peut être dans les meubles, dans les jouets, dans l'air, dans l'eau, dans la terre, etc. Bon. Et ça, ça concerne évidemment toute la production chimique, ainsi que les risques physiques aussi, en dehors de la radioactivité qui relève d'une autre agence. Il y a tout un tas de risques physiques aujourd'hui, et en particulier un risque dont on parle beaucoup, c'est celui des ondes de la téléphonie mobile et des lignes à haute tension.
Notamment avec les Robins des Bois qui s'étaient manifestés.
Alors il y a Robin des Toits.
Robin des Toits, voilà.
Donc Robin des Toits, effectivement, qui fait un travail de sensibilisation et de veille citoyenne sur les effets de la téléphonie mobile, en particulier donc des antennes relais, et qui ont une action de sensibilisation donc particulièrement importante, puisque du côté des institutions, on a visiblement une tendance à freiner des quatre fers devant les enjeux économiques, et ça reviendra souvent, on aura aussi l'occasion d'en parler, je pense, devant les enjeux judiciaires, puisqu'il y a des perspectives de procès aujourd'hui à propos des ondes de téléphonie mobile, des gens qui peuvent être amenés à en souffrir ou qui peuvent se retrouver en état d'hypersensibilisation aux ondes et aux rayonnements de façon générale. Voilà, donc un type de risques physiques que l'AFSET, donc l'Agence de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail, devait couvrir. Alors, il faut savoir que depuis le mois de juillet, Roselyne Bachelot a dissous cette agence, et qu'elle l'a fait avaler la structure par l'AFSA, l'Agence de sécurité des aliments, dont la réputation jusqu'ici était précisément d'être un peu trop sensible au lobby agroalimentaire, justement. Et alors que ces agences, ces trois agences, médicaments, aliments et les produits en général, avaient pour vocation d'assurer l'indépendance de l'expertise par rapport au lobby industriel. Or, comme je le disais, l'Agence du médicament est mise en cause très régulièrement parce que son indépendance, semble-t-il, n'est vraiment pas assurée, déjà structurellement, parce que 80% de ses revenus à l'agence, en fait, sont assis sur les financements des laboratoires pharmaceutiques. Donc c'est déjà un vice, on va dire, dans la forme, dans la structure de financement.
À la fois jugé parti, donc.
Bah, là, fatalement, et puis travaillant essentiellement avec des experts qui eux-mêmes sont en conflit d'intérêts, donc là, il y a un vrai problème. Et si on en discute dans le détail, on verra que... On peut entendre des énormités de la part de la direction de l'agence quand il distingue les niveaux des conflits d'intérêts. On en est là aujourd'hui. On rentre complètement filandreux la notion de conflit d'intérêts. Et ils se permettent de faire une espèce d'évaluation de l'importance du conflit d'intérêts pour juger si l'expert peut ou non rendre son avis et participer au débat sur l'autorisation du médicament appartenant à un laboratoire qui l'emploie par ailleurs. On est dans une situation où, on va dire, le conflit d'intérêts en lui-même aujourd'hui ne suffit plus à l'agence pour écarter en fait l'expert en question. Et on est dans une situation très malsaine où cette agence ne dispose pas, en fait, alors qu'elle devrait se battre pour le faire, plutôt que de justifier la situation actuelle, ne dispose pas d'un corps d'experts propre qui serait donc rémunéré par l'État. Et non pas par les laboratoires pharmaceutiques.
Ouais.
Hein, évidemment. Quelqu'un qui travaille pour un laboratoire pharmaceutique ou qui a ses proches parents qui travaillent pour l'industrie pharmaceutique, on peut imaginer qu'il ne dispose pas de toute la sérénité et l'indépendance technique, on va dire, pour rendre des avis éventuellement défavorables qui vont faire perdre des milliards au laboratoire. On imagine les représailles derrière. Et on imagine aussi les promesses ou les cadeaux en retour. Alors pour l'Agence de sécurité des aliments, là on a une structure a priori plus indépendante, je dis bien a priori, parce que dans les faits, c'est le grand ministère de tutelle de cette agence des aliments, c'est le ministère de l'Agriculture, qui est complètement phagocyté par les lobbies industriels agroalimentaires.
Oui, notamment aussi par tout le pan qui concerne l'utilisation des intrants. Oui. Et en quantité massive, notamment en matière de viticulture et d'agriculture, oui. Et d'agronomie.
Voilà. Donc, qui dit ministère de l'Agriculture dit les lobbies de la chimie, les lobbies agroalimentaires, et aujourd'hui des coalitions industrielles absolument incroyables. C'est-à-dire, en gros, un ministère dont l'indépendance n'est pas imaginable en l'État. Et donc ce ministère de tutelle de l'Agence des aliments pèse extrêmement fort, au point que j'avais entendu dire, par exemple, du côté de la direction de l'AFSA, à l'époque c'était Martin Hirsch qui la dirigeait, que Martin Hirsch passait 80% de son temps, en fait, à essayer de résoudre les problèmes de pression de l'agroalimentaire et du ministère sur les recherches et la publication des résultats. Bon, voilà. C'était une situation faisant l'objet d'un rire fréquent dans les milieux d'expertise.
Et ce sont des lobbying qui peuvent se manifester pour représenter des intérêts économiques de multinationales de
l'agroalimentaire. Voilà, alors qui se manifestent de tout un tas de manières, soit en glissant dans les comités, dans les groupes de travail, des experts qui en fait sont rémunérés par leurs soins, soit en s'associant des experts qui travaillent pour l'agence en leur proposant des rémunérations pour des interventions diverses, et de façon à les instrumentaliser. Il y a aussi une façon de peser directement sur le, sur le ministère de tutelle, qui lui va faire pression sur la direction de l'agence pour que la présentation des résultats soit plus discrète, ou qu'elle lisse certains effets toxiques de façon à plus ou moins les gommer ou les faire disparaître. Parce qu'il y a des façons de présenter une étude, des façons de biaiser les résultats, etc. Si vous faites des moyennes plus longues, par exemple, vous arrivez à lisser des pics d'exposition et à faire disparaître à l'arrivée, ce qui va vraiment poser problème. Pour l'AFCET, donc la troisième agence, celle du travail et de l'environnement en général, on assistait à quelque chose d'intéressant. L'AFCET était très mal parti. Premier rapport, c'était sur la téléphonie mobile. On découvre, nous, les journalistes, que ce rapport avait été fait sous la haute pression des opérateurs de téléphonie. Et c'était au point, d'ailleurs, que certains documents qui étaient entrés dans le rapport et le rapport lui-même, par inadvertance, avaient conservé les logos des opérateurs de téléphonie. En termes d'indépendance, là, on était loin de la vocation de l'agence. Ça a été un électrochoc en interne, parce que ça, on l'a vraiment sorti dans la presse. Et donc, après cette mésaventure, donc en interne, ils savaient en gros que s'ils recommençaient le truc, là, comme on les avait vraiment dans le collimateur, c'était la mort ou la décrédibilisation définitive de l'agence d'entrée. Et après, il y a eu un travail en interne intéressant, notamment par les représentants de la vie associative qui font partie du conseil d'administration. Il y avait José Cambou, par exemple, de France Nature Environnement. Le père de l'agence qui s'était battu, on avait fait un ouvrage là-dessus, qui s'était battu pour que l'agence soit créée, justement, pour que l'indépendance et l'expertise soient assurées en France, et qui lui tenait beaucoup à ce que, évidemment, cette agence réponde à sa vocation, sinon c'était n'importe quoi. Et puis des gens comme François Derriot ou Michel Parigot, le président du comité Amiante Jussieu, qui sont des spécialistes, eux en particulier, des expositions professionnelles et extrêmement vigilants. Enfin, donc, ils ont réussi à exercer en interne une vigilance telle qu'on a vu assister, donc on a vu au fil des années cette agence tendre. Vraiment à une indépendance que les autres agences n'assuraient pas. Et ça, c'est extrêmement intéressant. Ça montre que ça tient aussi à des personnalités en interne qui sont très mobilisées et qui ont une culture du lobbying, d'ailleurs, qui leur permet de le repérer très vite et de se battre contre, qui ont la faculté de publier dans les médias aussi pour réagir très vite en cas de dérive. Et l'application, donc, par cette agence de la directive ISO 150 sur l'indépendance des experts, la norme ISO, qui est une norme qui permet normalement d'assurer et de contrôler l'indépendance des expertises. Si vous la lisez dans le détail, vous la trouvez sur le net, la norme ISO 150. C'est très intéressant. Ça montre que c'est pas seulement le choix des experts au début qui importe, mais c'est le contrôle sur ces experts tout au long de l'expertise, avec un certain nombre de procédures très strictes, extrêmement détaillées, qui permet d'assurer l'indépendance de l'expertise, et évidemment aussi la présentation des résultats. Donc cette agence a été donc la seule jusqu'à maintenant à appliquer cette norme ISO 150, très très contraignante, et là elle travaillait en dernier, notamment sur les nanomatériaux. Elle rendait des rapports dans lesquels elle demandait l'application urgente du principe de précaution, et on aura l'occasion de revenir aussi sur le principe de précaution. C'est important parce qu'il est très attaqué en ce moment et les lobbies veulent le faire disparaître. Et donc c'est le moment où cette agence travaillait sur un des dossiers les plus sensibles, je dirais, de l'histoire de la toxicologie industrielle, les nanomatériaux, que Roselyne Bachelot a décidé de la dissoudre et de faire intégrer sa structure par l'AFSA, l'Agence des Aliments, qui elle précisément ne répond pas aux mêmes critères d'indépendance. C'est mal barré, on peut dire, et le directeur donc de la nouvelle agence, parce que du coup ça a été rebaptisé tout ça, c'est l'ANSES aujourd'hui, ANSES. L'ANSES, qui est donc l'Agence nationale de sécurité de l'environnement et de la santé, de sécurité sanitaire générale, quoi, et la présidence, enfin la direction, pardon, est assurée par tout simplement l'ex-directeur de l'Agence des aliments, hein, ce qui annonce bien la couleur, c'est-à-dire que c'est l'Agence des aliments qui aura la haute main désormais sur, on va dire, sur les expertises et qui assurera la relation avec les ministères de tutelle. Donc on est dans une situation d'emblée qu'on peut considérer comme très douteuse. Voilà.
Qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à la transparence des composants qui rentrent dans les produits, notamment issus de l'agroalimentaire? Je prends un exemple. Lorsque nous faisons état du vin, le vin est un des seuls produits sur lesquels on n'a aucune indication de composants, sauf la mention qui est devenue obligatoire de « contain sulfite » ou « contient pas de sulfite », le soufre, donc le soufre de synthèse qui donne ce mal de tête si caractéristique pour les charmants buveurs. Donc, par contre, on a, je ne saurais le dire le nombre exact, mais je crois plus de 150 produits chimiques utilisés pour, de produits de synthèse chimique utilisés pour la vinification du vin. Laisser la discrétion, bien évidemment, du vigneron ou de l'œnologue ayant en charge la vinification d'un vin, puisqu'en général, ceux qui produisent le raisin et ceux qui font le vin ne sont pas forcément les mêmes. Et là, une opacité totale. On a la liste, puisqu'il y a une autorisation par les laboratoires d'œnologie d'utiliser du cyanure de potassium ou du bicarbonate de soude ou d'autres choses de ce type-là. Mais par contre, le consommateur, lui, ne sait pas du tout ce qui rentre dans la composition du vin. C'est-à-dire que l'agriculture biologique ne certifie qu'une seule chose, à savoir qu'on a un vignoble qui est du raisin qui a été produit sans intrants. Par contre, il y a une opacité totale sur la vinification, puisque c'est une clause de confiance. Et en général, le consommateur n'a pas été intéressé, d'autant qu'il n'y a pas de contrôle pendant la vinification. Donc c'est pour ça que nous disons notamment que vin bio et vin naturel sont deux choses complètement différentes, qu'on peut avoir des vins bio totalement trafiqués, et que le vin naturel, c'est une notion beaucoup plus empirique, plus qu'un label, qui certifie qu'on a du début de la chaîne de production du raisin jusqu'à la mise en bouteille, un vin, ça se reconnaît au palais, qui sera d'une pureté la plus souhaitable possible. Alors, l'étiquette ne donne sur le vin ne donne aucune indication. Alors au contraire, à la différence de la plupart des produits qu'on trouve en supermarché, on a le sentiment que on a des composés, on a des E machin, on a des arômes artificiels, on a le détail disons qu'on a un effort de transparence sur les composés qui rentrent.
Faut quand même savoir que ce détail est jamais complet. Hein. Tout ça, c'est le fruit. En fait, l'étiquette sur la composition est le fruit d'un lobbying intense et qui existe depuis des décennies et des décennies. Exemple, le sel, les pâtisseries industrielles. Alors, le sel, vous avez éventuellement du fluor dedans qui va être indiqué. Vous n'aurez jamais l'indication aluminium. Or, l'aluminium est utilisé dans tous les sels pulvérulents, c'est-à-dire les sels bien secs, mais qui font des tout petits grains, précisément pour assurer cette pulvérulence. Si vous prenez le sel de Guérande, par exemple, vous verrez qu'il est collant, il n'est pas pulvérulent, hein, il se coagule, il est en gros morceaux, et il y a une espèce d'humidité. C'est l'aluminium qui permet d'enlever tout ça et de donner certains sels dont je ne citerai pas la marque, mais qui sont ceux qu'on trouve sur la plupart des tables. Et qui est un sel donc à grain très fin, très sec.
Bon, c'est parfait.
Donc très très facile à doser, etc. N'empêche qu'il contient plein d'aluminium. Et voilà, c'est le cas pour tout un tas de produits. Donc par exemple, l'aluminium, vous ne le trouvez jamais quasiment dans la notice de composition. Et de la même manière, bon, il y a tout un tas de produits qu'on ne trouve pas dans les notices de composition. Ben, par exemple, les nanomatériaux, hein, qui sont à peu près aujourd'hui entre 500 et 800 nanoparticules nouvelles, hein, qui ont été inventées, qui sont mises dans des milliers de produits.
Je crois qu'on faisait état de 1500 produits. C'était Francine Marano, une chercheuse en
phytotoxicologie, en fait,
voilà. Il parlait de 1500 produits aujourd'hui sur le marché mondial.
Alors il y a les produits et les applications. Oui. Bon, à l'arrivée, on sait qu'il y a des milliers. Il y a des milliers de produits concernés aujourd'hui, et on est en fait dans une dans une confusion totale, puisque les rapports, les derniers rapports, ceux de l'AFSET en particulier, l'agence d'environnement travail, qui rappelait de façon très alarmée que la plupart des industriels utilisant des nanomatériaux aujourd'hui ne le savent même pas. C'est-à-dire qu'ils reçoivent les substances de base, d'accord, qu'ils doivent mélanger, etc.
De la part
de l'industrie de la chimie en particulier, hein, ouais. Tous les industriels de la chimie qui fabriquent des substances de base ou des mélanges de base de différentes substances qui vont être ensuite distribuées sur les marchés industriels pour faire des produits au sens propre. C'est-à-dire la définition normalement d'un produit, c'est déjà un mélange de différentes substances. La notion de substance renvoie vraiment à une molécule particulière. Et donc les industriels produisent des substances nouvelles. Ils assurent souvent les premiers mélanges, hein, et donc ces produits sont envoyés à des industriels qui ensuite les transforment, vont en faire du textile, des chaussures, des objets des meubles, etc. Du bitume, enfin, tout ce qu'on peut. Et donc on s'aperçoit après enquête que la plupart des industriels de la transformation ne savent même pas que les produits qu'ils reçoivent contiennent des nanomatériaux ou pas. Alors certains le savent, mais il y a une traçabilité très faible. La plupart ne le savent pas. On est dans cette situation aujourd'hui, c'est-à-dire d'avoir énormément de nanomatériaux déjà qui nous entourent, et sans le savoir, et avec des industriels incapables de le mettre dans la notice, puisque eux-mêmes ne savent pas qu'il y en a. Donc on est mis au pied du mur, là, dans une situation, je dirais, qui est pire que celle de l'amiante, parce que l'amiante, il y avait une relative traçabilité, bien qu'elle était insuffisante. On se retrouvait dans une situation avec l'amiante de ne plus savoir finalement quels étaient vraiment les produits qui en contenaient à l'arrivée, et donc l'obligation de faire intervenir, comme le voient tous les propriétaires aujourd'hui, des laboratoires, enfin des experts, hein, des professionnels du repérage de l'amiante pour leur dire s'il y a de l'amiante dans leur maison, etc. Avec les nanomatériaux, ça va être encore plus coton, parce que là il y en a des centaines de différents, d'accord, avec une traçabilité qui est souvent égale à zéro. Et pour retrouver des nanomatériaux, les technologies qui le permettent, autant c'est facile à côté pour l'amiante, là on est dans l'inconnu la plus terrible. Et or, il s'avère, ça c'était les derniers rapports de l'agence justement qui a été dissoute, il s'avère que...
De 2006, le premier rapport de...
Ça a été, alors voilà, 2006, et puis ensuite il y en a eu très régulièrement, il y en a eu d'autres, puisque le niveau d'alarme est très élevé. Et donc les travaux ont montré que les deux nanomatériaux les plus utilisés, c'est-à-dire les nanotubes de carbone et le nano-argent, qui sont les deux principales nanoparticules diffusées dans les produits, s'avèrent très toxiques.
D'accord.
Alors les nanotubes de carbone en particulier ont le pouvoir d'entraîner des mésothéliomes. Jusqu'à maintenant, c'est lié avec l'amiante, hein, pour le faire. C'est le fameux cancer de la plèvre du poumon, c'est-à-dire l'enveloppe du poumon. Aujourd'hui, on sait que les nanotubes de carbone, qui ont des fibres extrêmement fines et résistantes, traversent le poumon, vont se loger dans la plèvre et provoquent des mésothéliomes. Voilà.
Et vous dites...
Et pour le nano-argent, qui lui est le premier matériau, le nanomatériau le plus utilisé... On découvre aussi des effets délétères redoutables. Donc on a là l'exemple des deux principaux nanomatériaux qui ont été mis sur le marché sans test préalable, hein, alors qu'on pensait qu'avec l'amiante c'était fini ce genre de truc, d'autant qu'il y a le programme REACH au niveau européen qui impose de tester la toxicité d'un produit avant de le mettre sur le marché. Il faut savoir que les nanomatériaux n'entrent pas dans la réglementation REACH, c'est-à-dire que les industriels n'ont pas testé ces produits au prétexte il y a eu de nombreux prétextes, mais l'un d'eux c'est que une nanoparticule, c'est pas de la chimie, c'est plutôt de la physique, et donc le programme REACH ne concernant que les substances chimiques, ils ont estimé que les nanoparticules ne relevaient pas de ces tests préalables.
Et il y a aussi l'argument que vous évoquez, à savoir que certaines disent qu'il n'y aurait pas de différence d'incidence notoire sur les organismes vivants du fait qu'il y aurait un changement d'échelle par rapport à des matériaux comme l'argent déjà bien connu et qui serait nanisé soudainement, qu'il n'y aurait pas de différence fondamentale.
Voilà, alors ça c'est un point très très important, c'est que donc on a des tests, par exemple, on connaît à peu près la toxicité de l'argent. L'argent c'est un neurotoxique puissant. Les industriels partent du principe que, ayant déjà testé la toxicité de l'argent, il n'y a pas à tester le nano-argent. Or, il faut rappeler qu'une nanoparticule, donc ces nouvelles inventions là, une nanoparticule c'est un millionième de millimètre. C'est tellement petit. C'est-à-dire qu'on est vraiment là à l'échelle de l'atome, de l'ingénierie atome par atome. C'est tellement petit que ça peut traverser n'importe quel épiderme, n'importe quel organe. Et si ce n'est pas soluble, et en général il s'agit justement de nanoparticules très résistants, eh bien ça va se loger jusque dans le cerveau. On sait qu'il y en a dans certaines pommades, par exemple, ou des crèmes solaires pour le dioxyde de titane, par exemple, qui est aussi mis en cause aujourd'hui. Ça traverse la peau, hein, ça traverse tout le derme, et ça va ensuite voyager tranquillement dans le sang, et ça traverse les cellules sans aucun problème, les membranes cellulaires, etc., y compris donc la barrière hématoencéphalique, c'est-à-dire la barrière du cerveau, et où on sait que là, la neurotoxicité ou éventuellement la cancérogénicité de la nanoparticule pourra être tout à fait... avoir un impact considérable. Et ça traverse aussi la barrière placentaire, donc chez les femmes enceintes. Et là aussi, c'est des dégâts qu'on commence seulement à mesurer, mais dont on prend conscience que l'impact, en fait, est énorme. Donc on est dans une situation où tous ces gens, tous ces responsables qui disaient au moment de l'amiante en 96, plus jamais ça, on vous assure que ça n'arrivera plus, etc. Désormais, on sait, donc on en tirera les leçons. En fait, strictement aucune leçon n'a été tirée du scandale de l'amiante.
Et qu'est-ce qu'on peut dire des raisons de la vogue des nanotechnologies ? Est-ce que parce que c'est facile à produire, pour de grands effets, pour des coûts de production peut-être plus intéressants que ce qui se faisait plus classiquement, pour l'industrie chimique ?
Alors, l'intérêt des nanomatériaux, c'est qu'ils vont avoir des propriétés à façon. C'est qu'ils ont des propriétés à façon. C'est-à-dire que, d'une façon générale, on peut dire que on produit des nanoparticules, beaucoup de nanoparticules faisant du nanomatériau, hein, on produit des nanoparticules pour avoir généralement plus de solidité, plus de souplesse, plus de légèreté. Ce qui fait qu'on va pouvoir, par exemple, produire des câbles beaucoup plus fins, mais en même temps beaucoup plus résistants. C'est ce que Bill Clinton, qui avait le premier aux États-Unis, premier président, a voté des crédits énormes pour subventionner l'industrie des nanomatériaux, évoquait en gros l'idée, ce qu'il défendait devant le Congrès pour faire voter ces crédits, c'était on va pouvoir concevoir des matériaux qui vont révolutionner complètement mais aussi bien l'industrie textile, puisqu'on va avoir des vêtements hyper résistants, hyper légers, hyper souples, vous voyez. Alors, y compris pour les militaires, les sportifs, etc. Et on en trouve aujourd'hui jusque dans le bitume, par exemple, qui va beaucoup mieux résister aux intempéries, qui va être beaucoup plus souple, donc qui va permettre de conserver ou de retrouver systématiquement sa forme première malgré les passages, malgré l'usure, etc. Bon, il faut savoir qu'aujourd'hui, des nanomatériaux, donc on en a de plus en plus dans le bitume, dans les ciments. On va avoir des ciments auto-nettoyants, par exemple, pour les surfaces des murs, des bétons auto-nettoyants aussi, qui vont empêcher le développement des moisissures, ce genre de choses. On en a aussi du nano-argent, par exemple, dans les tissus aujourd'hui, ou les chaussettes.
Oui, chaussettes
des chaussettes que vous pourrez porter à vie et qui ne pueront jamais.
Ah,
ouais. À la limite, vous ne pourrez pas les laver puisqu'elles s'auto-nettoient.
Ah.
Le problème, c'est que les nanoparticules d'argent, au bout d'un moment, elles ne font plus la différence entre la chaussette et votre pied, et elles vont migrer à travers l'épiderme et se balader dans votre organisme. Et avec des effets qui sont tout à fait singuliers. C'est là où on ne peut pas confondre la substance de base et la nanoparticule. qui a non seulement une taille très fine qui lui permet de voyager partout dans l'organisme, mais surtout de développer des pouvoirs toxiques qui vont dépendre des organes qu'elle a croisés, des informations chimiques dont elle s'est chargée, des informations physiques dont elle s'est chargée, des autres nanoparticules qu'elle aura rencontrées au passage, qui vont modifier aussi son potentiel toxique. Autrement dit, on est dans une situation, comme disaient les experts là, de l'agence, où il va falloir quasiment prendre en compte la singularité toxique, le profil toxicologique de chaque nanoparticule qui, en fonction du voyage dans l'organisme et des autres produits qu'elle aura rencontrés, se sera chargée de pouvoirs nouveaux. Donc on est devant là un désespoir de la toxicologie, littéralement. Ouais. Et même de l'interprétation des effets pour les épidémiologues, qui à l'arrivée ne pourront plus identifier la moindre substance. Si on a une singularité à l'échelle de chaque nanoparticule, on est devant un problème tellement complexe qu'il devient presque impossible à solutionner.
Et justement, cette chercheuse que nous avions rencontrée mentionnait le caractère presque... caractère de Sisyphe, quoi, d'analyse des problèmes, puisque si on isole des composants et qu'on essaye de tester sur des tissus vivants s'ils ont un caractère justement de nécrose ou un caractère au contraire bénin du point de vue de l'écotoxicité, on se retrouve aussi par rapport à des produits sur le marché qui comportent des combinatoires, qui sont des composés de nanomatériaux. Donc à partir de là, on doit à la fois tester un composant sur un tissu vivant, mais en même temps reproduire le test avec un binôme de composants sur le tissu vivant, et à l'infini, puisqu'on a des interactions aux effets totalement imprescriptibles entre différents composants qui interagissent eux-mêmes avec un tissu vivant. Donc à partir de là, elle faisait état d'une infinité de tests, pas incommensurables, mais nécessaires, pour essayer de cerner aujourd'hui la nature des problèmes totalement fragmentés à travers les disparités des produits déjà disponibles chez le consommateur. Elle ne disait pas que c'était incommensurable, elle disait qu'il fallait une démultiplication des labos, des systèmes de contrôle, eux, ils sont un laboratoire un peu pionnier en France, mais ils sont relativement seuls dans cette
entreprise. Déjà, il faut savoir qu'en France, on a une toxicologie complètement dévastée. Toutes les filières de formation de toxicologues ont été fermées au cours des années 90. Aujourd'hui, on est dans une situation telle que, un peu comme dans le film américain, je ne sais plus comment il s'appelle, avec Clint Eastwood et quelques acteurs, ils vont chercher... La NASA va chercher les anciens cosmonautes, donc à la retraite, pour assurer la maintenance du minimum de maîtrise de l'espace, quoi, et on va chercher les vieux à la retraite. Et on est exactement dans cette situation-là aujourd'hui. On a des toxicologues qui sont en âge d'être à la retraite, qu'on a été recherchés pour former quelques nouveaux toxicologues, et surtout pour assurer une veille toxicologique, notamment dans le cadre de la compétition internationale, puisque les grandes entreprises françaises, type Danone et autres, se rendent compte que dans les commissions de toxicologie internationale, ils se font bananer, comme ils disent, par les autres, qui ont gardé des toxicologues pointus et qui sont capables de mettre en cause donc, les produits du concurrent pour leur toxicité, alors que Danone, de son côté, est devenu incapable d'assurer une toxicologie des produits concurrents. Vous voyez, parce que le petit jeu de lobbying au niveau international dans les commissions, c'est d'accuser la toxicité des produits de l'industriel concurrent. Et de démontrer, d'affirmer que ses propres produits sont non toxiques. Et le jeu consiste donc à faire interdire ou à imposer des contraintes aux concurrents industriels. Et la France est devenue, dans ce petit jeu, totalement inefficace. Et c'est à ce titre d'ailleurs que le Sénat avait produit en 1995 un rapport sur l'état de la toxicologie française, notant que... la situation en France était complètement sinistrée. On n'avait plus déjà de toxicologues, quoi. Donc on était rechercher les derniers à la retraite, les survivants à la retraite. Et malheureusement, les filières de formation n'ont toujours pas été réouvertes par l'État. Et donc c'est aujourd'hui à l'initiative des industriels, pour défendre leurs produits, qu'ils font former quelques nouveaux jeunes à la toxicologie par ces anciens qui avaient pourtant multiplié les alertes hein, en disant « sans nous, vous allez droit à la catastrophe
oui. ». Sachant que le but ce n'est pas la prohibition ou la condamnation des nanotechnologies, comme avec l'histoire aussi des AGM, c'est de savoir est-ce qu'on n'est pas en train d'ouvrir des espèces de boîtes de Pandore d'une manière totalement inconsciente, en n'ayant pas pris les devants pour examiner ce dont était fait pour prévenir et éventuellement, des risques sanitaires d'ampleur par rapport à des technologies dont on n'est pas capable d'évaluer les effets et qu'on a utilisées presque précipitamment en pensant qu'il y avait là quelque chose de l'ordre de l'innovation technologique.
Oui, c'est pas presque précipitamment, hein, c'est vraiment dans la plus grande précipitation. Les industriels ont mis, nous mettent là carrément au pied du mur, nous et les autorités qui ont été très complaisantes parce qu'elles étaient au courant, les responsables politiques étaient au courant. Donc on est au pied du mur dans une situation où ça y est, des nanomatériaux, il y en a partout. Donc les interdire aujourd'hui, ou en interdire même quelques-uns, c'est de l'ordre, enfin, ça a des conséquences économiques considérables. En termes de contentieux judiciaires, c'est aussi... une vague de procès qui se dessine, qui paralyse complètement les autorités politiques, puisque elles aussi sont responsables hein, dans l'histoire. Des responsables politiques vont se retrouver devant des tribunaux si le juge d'instruction ne disparaît pas d'ici là. Et c'est un des enjeux justement de la réforme de la justice, c'est les scandales sanitaires. Est-ce que des juges vont encore pouvoir instruire des procès dans ce domaine qui risquent de mettre en cause des responsables politiques ? Et donc... à l'arrivée, on a une situation où les industriels nous ont délibérément mis dans un contexte de, on va dire, de pollution, d'exposition intense aux nanomatériaux, avec une quasi-impossibilité pour les politiques d'envisager sérieusement des interdictions ou des restrictions d'usage. Alors cela dit, les députés européens, récemment, ont quand même, enfin, commencent donc à réfléchir, à être alertés, etc., et demandent... sous la pression notamment du groupe des Verts européens, donc un moratoire. Alors un moratoire, ce n'est pas une interdiction, c'est une suspension, en attendant, suspension de l'usage, en attendant d'avoir tout simplement testé les produits, ce qui est vraiment le béaba de la prévention telle qu'elle se développait en Europe à travers le programme REACH. Et notamment aussi, puisqu'un programme a été lancé, d'évaluer les combinaisons de produits. Il y a un programme qui a été lancé sur les mélanges, c'est-à-dire que l'interaction entre les différentes substances peut faire qu'une substance a priori totalement inoffensive devient cancérigène ou neurotoxique, susceptible par exemple d'entraîner des cas d'Alzheimer. Donc c'est important de comprendre, bien au-delà de ce qu'on faisait jusqu'à maintenant, où on étudiait chaque produit séparément, et bien de les étudier ensemble, d'étudier leur combinaison, puisque les produits, c'est des mélanges. Et donc un produit très toxique peut devenir encore plus toxique, ou moins éventuellement, en fonction des produits avec lesquels il va être mélangé. Donc c'est fondamental aujourd'hui d'assurer cette veille-là, cette analyse-là, et on en est au tout début. Hein, au tout début. Alors quand on voit donc, les nanomatériaux arriver, là c'est la folie la plus intégrale. Quoi.
Et où on en est par rapport à des problèmes moins connus, mais curieusement, je pense au sucre, par exemple. Au sucre de synthèse, hein, d'extraction et de synthèse.
Hein, non. Ce qu'il faut voir, c'est que les nanomatériaux, aujourd'hui, entrent dans l'alimentation. On n'en est plus seulement au niveau des emballages. Hein. Les nanomatériaux permettent de les rendre, par exemple, comme je dis souvent, plus mousseux, plus édulcorant. D'assurer une meilleure conservation. On produit aussi des conservateurs avec les nanomatériaux, des émulsifiants, etc. Ça y est, c'est dans l'alimentation, on en mange. Et là aussi, la traçabilité n'est pas assurée, et ça, c'est totalement scandaleux. Donc on a des groupes de députés européens actuellement qui essaient de faire passer l'idée que... les nanomatériaux soient systématiquement étiquetés, hein, présents dans les listes, de façon que les consommateurs puissent choisir, comme avec les OGM. Et alors évidemment, on a une énorme pression des lobbies agroalimentaires et chimiques pour échapper à cette obligation d'affichage sur les emballages, c'est-à-dire qu'ils veulent absolument éviter ce qu'ils ont connu avec les OGM, c'est-à-dire une mobilisation des citoyens, des consommateurs, refusant d'en bouffer aveuglément, enfin, qu'on puisse au moins choisir.
Alors, on peut en venir peut-être à un problème qui est un problème notoire, que vous évoquez notamment le principe de précaution et sa mise en question, notamment par rapport aux effets de neutralisation globale et indistincte que ça a pu susciter, notamment par rapport à la grippe H1N1, enfin, ces grandes affaires sanitaires il y a quelques années. Vous évoquez qu'il y a des tentatives qui se font à travers des think tanks divers et variés, des cercles de gens qui essayent quand même de, non pas de liquider, mais plus finement, de montrer qu'il faudrait quand même établir des clauses de conditionnalité à l'usage de ce principe de précaution. Alors vous faites notamment référence notamment au rapport Attali qui oui, abondait oui. dans ce sens-là, qui sème un peu des éléments de perplexité, qui préparait le terrain. Alors, pour...
Voilà. Mais plus que de perplexité, hein, y a aujourd'hui beaucoup de... Enfin, la plupart des lobbies industriels, on va dire, qui sont contre le principe de précaution. D'accord ? Parce que le principe de précaution, c'est une menace économique. Hein, c'est-à-dire que ça peut tomber sur des produits... Et à ce moment-là, il peut y avoir des restrictions d'usage, des contraintes d'utilisation, voire l'interdiction, ou l'approfondissement d'enquêtes toxicologiques. Bon. Je rappelle toujours que le principe de précaution, qui n'est pas la caricature qu'en font les industriels, le principe de précaution, c'est pas seulement l'interdiction d'un produit, c'est toute une gamme de mesures qui peut être très adaptée au niveau de gravité de la situation. Donc ça peut aller effectivement du moratoire, c'est-à-dire en attendant de faire les expériences, etc., et de lancer les recherches, on suspend l'usage, hein, jusqu'à l'interdiction complète, comme on l'a vu dans le cadre de l'amiante. Et je rappelle toujours à ce propos que l'interdiction de l'amiante en 96, c'était pas l'application du principe de précaution, mais c'est l'application du principe de prévention. C'est-à-dire que la différence entre prévention et précaution, c'est que la prévention, c'est qu'on prend des mesures quand on connaît la toxicité d'un produit. D'accord ? Là, on sait que l'amiante, c'est un cancérogène puissant, on l'interdit, c'est le principe de prévention. Bon. Les lobbyistes et les industriels prennent soin de ne jamais rappeler bon, ces différences. Le principe de précaution, c'est toute une gamme de mesures, dont la première, qui est de lancer des recherches, précisément, pour évaluer le danger de la situation. Donc, c'est pas du tout un frein à l'innovation ou à la recherche, tout au contraire. Il s'agit de subventionner celle dont on a besoin, c'est-à-dire celle qui va garantir notre sécurité. C'est important de le rappeler, puisque la commission Attali et tout un tas de think tanks financés par les entreprises du CAC 40, notamment l'Observatoire du principe de précaution, vous voyez, des think tanks carrément consacrés à ça, font une critique à longueur d'année du principe de précaution, notamment dans tous les médias. C'est des intellectuels à gages, on va dire, enfin qui se prostituent, en fait, pour les entreprises qui les payent, pour leur fournir des arguments, là, en l'occurrence, contre le principe de précaution. Et ce qui se dessine aujourd'hui, c'est un discours du genre, et c'est vraiment texto, le principe de précaution, c'est l'armageddon économique, on va tout détruire, on va paralyser la recherche, les industriels vont plus pouvoir investir, ça va être une catastrophe économique qui va faire perdre à nos pays leur compétitivité, etc. Bon. Ça, on trouve ça dans Rapport Attali, on trouve ça dans tous les think tanks qui travaillent pour les industriels, y compris chez les assureurs, qui n'ont pas envie de couvrir aussi vous voyez, les conséquences et tout ça. Ils ont été un peu traumatisés par l'amiante, ils ont découvert que ça pouvait être redoutable. Beaucoup d'assureurs ont fait faillite avec l'histoire de l'amiante, notamment aux États-Unis. Bref, tous ces gens sont d'accord pour répéter le même discours, qui consiste à caricaturer le principe de précaution, à faire comme si c'était un principe qui paralysait tout à coup toute la recherche et toute innovation technologique, et de le réduire au principe d'interdiction. Alors que le principe de précaution, ça n'a jamais été simplement d'interdire un produit. La plupart du temps, c'est justement pas d'interdire un produit, mais d'y voir plus clair, hein, de se donner les moyens de l'évaluation, d'une évaluation sérieuse. Et donc là, je consacre tout un chapitre à cette... cette mise en danger du principe de précaution, je rappelle, ça c'est très important, que le principe de précaution n'est pas seulement dans la Constitution française aujourd'hui, et là les industriels rêvent de l'enlever, hein, on peut s'attendre à une réforme, ce sera Sarkozy ou le suivant, mais cette réforme va venir, la tentative de redéfinir donc, le périmètre légal du principe de précaution et donc de l'enlever de la Constitution, parce que vous savez que un principe, à partir du moment où il est dans la Constitution, il a une valeur supérieure à la loi. C'est une loi supérieure. Les lois doivent s'adapter aux formules de la Constitution. Et puis, par ailleurs, ce principe de précaution, il est aussi, et ça très peu de gens le savent, et les industriels et leurs lobbyistes gardent bien de le rappeler, le principe de précaution est dans le traité européen, depuis Maastricht. Autrement dit, il y a une obligation d'application du principe de précaution. Si il se trouve que des industriels ne le respectent pas, c'est non seulement aujourd'hui la législation française qui permet de poursuivre devant les tribunaux, mais la législation européenne. Et vous imaginez bien que les industriels puissent rêver de faire disparaître ce principe de précaution. Il avait été mis dans la Constitution française par Chirac contre la vie, en fait, et contre les pressions des industriels. Ça, c'est voilà, moi qui ne suis pas chiracien, en tout cas, là, je peux reconnaître. Comme sur le terrain de la santé en général, il a fait un certain nombre de choses tout à fait étonnantes, qui n'étaient pas d'inspiration libérale, hein, comme notamment de tripler les moyens de l'Agence de sécurité sanitaire environnementale, hein, alors que Bachelot l'a fait disparaître, là. Et Chirac l'avait fait, d'ailleurs, là aussi, contre l'avis général des industriels. Voilà, sur le terrain de la santé, il y avait des choses assez étonnantes chez ce bonhomme, comme notamment d'avoir lancé le plan anti-cancer, en lui donnant des moyens, là aussi, qui ne faisaient pas forcément plaisir aux industriels et aux laboratoires pharmaceutiques, au passage. Donc, pour revenir au principe de précaution, il est en danger aujourd'hui, il est systématiquement attaqué, de plus en plus, des ouvrages sortent, des publications partout, etc., qui tente de nous faire croire que le principe de précaution, c'est juste interdire les produits et paralyser l'industrie. Donc ce n'est pas du tout le cas. Je renvoie en particulier au comité de précaution et de prévention qui avait été mis en place par Dominique Voynet. Et qui lui-même, devant cette vague d'attaques, etc., qui sent venir le moment où ils vont l'éliminer, ce principe de précaution, donc rappelle précisément ce que c'est fondamentalement réagir à un danger ou un danger supposé par des investissements dans la recherche en toxicité et par des mesures appropriées à la gravité du danger. D'accord. Donc ça c'est fondamental. Donc c'est pas le principe de prévention, où là on agit quand on sait qu'un produit est très... C'est le deuxième stade de principe de prévention en fait. Et j'entends parler aujourd'hui des lobbyistes dire, par exemple, il faut appliquer le principe de vigilance, par exemple, de substituer au principe de précaution. Non, le principe de vigilance, il est déjà dans le principe de précaution. Donc, il ne faut pas l'enlever, ce principe de précaution, il faut au contraire le renforcer, adapter la législation pour qu'il y ait une vraie traduction au niveau juridique du principe de précaution, qui, encore une fois, est dans le traité européen. Il ne faut surtout pas les laisser l'enlever de là. Parce que sinon, là, ça va être tout simplement une régression qui va permettre aux industriels de faire tout et n'importe quoi.
Mais de toute façon, maintenant, le principe de précaution ne pourrait plus être abrogé par une décision unilatérale, par exemple en France, vu qu'il est adopté par le Parlement européen. Donc ça sera quand même...
Oui, mais cette vague, alors, ce qui est important de voir, c'est que cette vague de lobbying contre le principe de précaution, elle existe dans les autres pays, c'est pas seulement français. Ouais. Il y a aujourd'hui un réseau des think tanks et des lobbies, hein, qui s'expriment très très bien à Bruxelles d'ailleurs. On a des coalitions internationales hyper puissantes. Et aujourd'hui, on a même des coalitions qui mélangent les différents secteurs industriels. C'est-à-dire, par exemple, autour des nanomatériaux et contre le principe de précaution qui, évidemment, n'a pas été respecté par les producteurs de nanomatériaux. On a aujourd'hui une coalition qui associe les industriels de la métallurgie, donc les constructeurs automobiles, l'aviation, l'armement, etc., l'agroalimentaire, le secteur pharmaceutique, le secteur textile, le nucléaire, ils sont aussi là, etc., l'informatique, etc., qui sont tous sur des investissements colossaux dans les nanomatériaux, et qui donc sont tous d'accord aujourd'hui pour dire qu'il faut balayer le principe de précaution. Vous voyez, là, c'est plus seulement un secteur industriel qui fait du lobbying, c'est l'ensemble des industries qui se coalisent pour faire pression sur les commissaires européens. C'est hallucinant.
Alors, j'imagine que la... des formes de, disons, de contre-pression citoyenne ne sont pas aisées en la matière, puisque là, on est sur des questions scientifiques excessivement pointues. Je sais, par exemple, j'avais justement accueilli les, pas les Robins des Bois, mais les Robins des Toits, bien évidemment, sur les questions de prise en considération de l'incidence des ondes, même fût-elle invisible, sur la santé, sur le métabolisme, etc. On sait que là, à ce moment-là, on a des citoyens qui peuvent se coaliser en association, mais qui pour produire des contre-expertises, qui ont besoin aussi de travailler avec des scientifiques récalcitrants qui vont appuyer cette démarche qui vient en quelque sorte aussi des usagers. Alors sur les nanotechnologies, comment on fait par exemple? Est-ce qu'on a aujourd'hui des je vois aussi circuler des textes. Hein, les gens, il y a des modes de sensibilisation par Facebook, par les réseaux sociaux, avec des textes de qui mettent en garde, qui sont pas des textes de condamnation, au contraire, qui sont de mise en garde. Voilà, il se produit une avancée. Ou un péril technologique, on n'en sait rien, etc. Donc c'est quand même intéressant de savoir quels sont les ressorts de la mobilisation des gens par rapport
à ces questions-là. On est là à un tournant historique, hein, à mon avis. Depuis quelques années, on peut dire que le rêve de voir une expertise citoyenne se développer est vraiment en train de se réaliser. C'était un idéal auquel pas beaucoup croyaient, pensant qu'il y avait un clivage irrémédiable entre l'opinion publique, on va dire, hein, ou le niveau de culture citoyen et le niveau de culture des experts, en particulier des toxicologues et des épidémiologues. Donc on pensait que c'était irréparable, que l'opinion publique n'aurait jamais la capacité de jugement lui permettant de trancher dans des dossiers scientifiques. Et on s'aperçoit, en fait, grâce à des associations qui font se rencontrer des scientifiques, des citoyens plus ou moins mobilisés, etc., que, en fait, il n'est pas si difficile d'arriver à un niveau d'expertise très élevé sur un dossier. Et ça a été un des chocs, d'ailleurs, au Grenelle de l'environnement. C'est la découverte par les lobbyistes industriels, par les représentants des industriels qui étaient là, dans ces commissions d'environnement, y compris des experts purement scientifiques, de découvrir le niveau de technicité des représentants associatifs en face. Ça, c'était totalement inédit. Et c'était au point que beaucoup d'experts spécialisés, hein, financés par les industriels, beaucoup d'experts spécialisés découvraient un niveau d'expertise en face, du côté des associations, supérieur au leur. Et comment ça s'explique, ce phénomène? Ça, c'est historique. Comment ça s'explique? C'est que, d'un côté, vous avez des experts qui sont professionnels, donc qui vivent avec les missions qu'ils remplissent pour les industriels. Ces professionnels, ce sont quand même fatalement des généralistes, hein, c'est-à-dire des types qui vont travailler sur 10, 20, 30, voire plus, de produits en même temps. Et ils se retrouvent en face de retraités, par exemple, qui peuvent avoir d'ailleurs par ailleurs une formation scientifique ou pas, qui eux passent tout leur temps sur un produit ou une catégorie de produits. Et donc un niveau de spécialisation et un temps à y consacrer supérieur aux professionnels. Parce qu'on a là des citoyens hyper investis, qui peuvent être sur un produit, non seulement sur un produit, mais qui le sont pendant 10 ans, 15 ans. La moindre étude scientifique nouvelle, ils sont au courant tout de suite. Ils se l'analysent. Ils font la synthèse, etc., etc. Et donc, on a des experts professionnels débordés par le niveau de compétence, ouais, en fait, des représentants associatifs. Ça, c'est historique.
C'est arrivé sur un tout autre plan, par exemple, avec des associations comme ACT-UP, par exemple, là où il y avait un
état. Oui, absolument.
Il y avait une habilitation d'expertise qui était quand même remarquable.
Voilà, et ce qui a fait que le ministère de la Santé s'est retrouvé pris à contre-pied tellement fort sur de nombreux dossiers qu'ils ont embauché un certain nombre de leaders, là, militants, hein, qui se sont retrouvés fonctionnarisés du jour au lendemain. Voilà. Bon, c'est pas encore arrivé sur les ondes des portables, sur les OGM et sur les autres produits contestés. Ça va peut-être arriver. C'est une façon aussi d'instrumentaliser l'adversité, hein, pour le pouvoir à un certain moment. N'empêche qu'actuellement, des associations comme InfoGM, comme la CRIREM, sur les ondes électromagnétiques, InfoGM, donc là c'est sur les OGM, l'association, la CRIRAD sur la radioactivité, qui a été la première du genre, hein, créée en 86 par Michel Rivasi, suite à Tchernobyl qui s'était normalement dans le nuage, donc c'était officiellement arrêté aux frontières. Ce sont des associations qui montrent qu'on peut, d'une part, agréger dans le monde associatif des compétences scientifiques de très haut niveau, de gens qui viennent du milieu scientifique, et puis des gens qui, sans être des scientifiques, vont, au fil des années, constituer un niveau d'expertise plus qu'excellent. Je pense à certains aujourd'hui qui sont même des membres influents de commissions européennes, voire mondiales, hein, dans des commissions d'expertise, et qui sont à la base de simples citoyens, mais qui ont un tel niveau d'expertise reconnu internationalement qu'aujourd'hui, on ne peut plus s'en passer. Et les commissions ad hoc les intègrent. et ce sont parmi les membres les plus influents. Actuellement, un exemple, actuellement, il y a au niveau européen, il y a un projet de législation qui se met en cours sur le mercure. Bon. En France, on a toujours une position pro-mercure, on va dire, qui essentiellement est représentée par la corporation des dentistes, hein, qui sont impliqués jusqu'au cou dans cette histoire, le fameux mercure dans les plombages. Eh bien, au niveau européen, donc, on a des représentants associatifs qui interviennent aujourd'hui de façon structurelle, hein, et qui sont en train de redéfinir avec les commissaires européens ce qu'on appelle la stratégie mercure, hein, c'est-à-dire la prochaine législation qui va nous protéger contre le mercure. Il faut savoir que le lobby des dentistes exerce une pression considérable auprès de la Commission européenne pour que la stratégie mercure n'intègre pas les amalgames dentaires. Donc, on est là dans une situation donc qui m'intéresse beaucoup, sur laquelle je prépare un bouquin sur l'expertise citoyenne. On est à un tournant historique qui réalise un vieux rêve, moi, que j'avais déjà au début des années 80. J'écrivais sur la vulgarisation scientifique et ce qu'on pouvait en attendre. Et on était encore dans une vision où la communauté scientifique, donc, déversait son savoir à la société en général, comme si c'était une classe d'élèves, hein, plus ou moins perturbée et incapable, donc avec cette espèce de condescendance. Et aujourd'hui, on a une expertise citoyenne qui non seulement rivalise sur les dossiers les plus pointus, souvent, et là, il faudrait rentrer dans les détails, c'est passionnant, mais pose aussi les problèmes de façon originale, hein, c'est-à-dire en vertu de paramètres que les laboratoires scientifiques n'intègrent pas toujours, en particulier la valeur objective, pas seulement économique, hein, de la découverte ou de la recherche qu'on fait. Et donc quand on regarde un dossier, bah, notamment sur les OGM, avec un regard qui n'est pas seulement celui de l'industrie qui rêve des dividendes, hein, des dividendes boursiers que ça va lui permettre de faire, mais qui regarde tout simplement l'utilité de cette recherche, ses orientations contestables au plan éthique, comme au plan économique à moyen ou long terme, d'ailleurs, parce qu'il y a les conséquences sanitaires en particulier qui coûtent très cher à l'arrivée, beaucoup plus cher que si on avait fait attention au départ. Et donc, je dirais, un public non scientifique qui vient en remontrer aux scientifiques au cœur même de la recherche scientifique. Et où on s'aperçoit qu'on peut faire de la science différemment aussi, et que la science n'a pas à devenir simplement le monopole des grandes entreprises. Voilà.
Ainsi se termine cette émission des Périphériques vous parle, qui sera d'ailleurs rediffusée le mercredi 16 décembre de 10h à 11h. Vous avez pu écouter Roger Langlais, à l'occasion de la sortie du livre d'Andreas Chieri, « Mon combat contre les empoisonneurs », écrit en collaboration avec lui, et paru aux éditions La Découverte. Vous êtes toujours sur Fréquence Paris Pluriel, 106.3 bande FM. Restez à l'écoute. À très bientôt. Au revoir.